On parlait tout à l'heure, à l'entrée, si on est dans un bateau avec une équipe, il y a certains sujets dont il ne faut surtout pas parler si on veut pas que le bateau coule en pleine mer. Ah, je ne sais pas si vous êtes autour d'une table et que vous dites, mais qu'est-ce que vous pensez du conflit entre Israël et les Palestiniens? Vous êtes sûr que ça va mal terminer? J'ai des amis qui font une couette à un petit garçon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel politicien? Bon, alors j'imagine que rien qu'en évoquant ces thèmes, on vous voit un petit peu vous trémousser sur les chaises. Donc, on sait qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Et chez les évangéliques, eh bien, il y a aussi des sujets qu'il ne faut pas trop aborder. Ben, notamment la question des dons de l'esprit. Alors, quand vous êtes autour d'une table avec des bons évangéliques, si vous voulez avoir des débats animés, vous dites, mais qu'est-ce que vous pensez des dons de l'esprit? En général, ça ne rate pas. Vous êtes parti pour une heure de discussion animé, voire corsé. Alors le thème de la prédication, le titre de la prédication ce matin, c'est les dons de l'esprit ne nous divisent pas, ils nous unissent. Alors ce matin, je serai très consensuel. En tout cas, je vais essayer d'être très consensuel. Donc, je vais pas faire une prise de position sur certains sujets qui sont sujets à division, mais au contraire, essayer de rechercher qu'est-ce qui fait le consensus et ce n'est pas une absence de conviction, mais c'est plutôt de se dire, mais en fait, sur cette thématique-là, qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer ensemble pour aller plus loin, quelles que soient nos convictions à ce sujet? Nous sommes dans une série de prédications. Dans la série de prédications, le thème, c'est Réveille-toi. On a envie de parler du réveil, on a envie d'être plein entier pour Dieu, on a envie d'être tellement conscient de sa présence qu'on puisse dire, mais oui, mon âme, elle est réveillée. Et je suis en communion avec Dieu. Et puis quand on pense au réveil, eh bien, inévitablement, à un moment donné, il y a le côté des miracles qui est là. Et quand on parle des miracles, à un moment donné, il y a le côté des dons de l'esprit qui viennent. Alors quand on parle des dons de l'esprit, un des passages qu'on parle le plus et de la façon la plus explicite, c'est 1 Corinthiens, les chapitres 12 à 14. Alors ça fait trois chapitres que nous n'allons pas lire ensemble ce matin, mais juste quelques petits extraits. Et puis je vous laisse à la maison peut-être continuer votre lecture de la Bible. Je vais prendre le début de 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. En fait, Paul est en train de répondre à toute une série de questions qui se posaient dans l'église de Corinthe, et on suppose que par rapport au don de l'esprit, il y avait des questions qui étaient là, il y avait des débats, il y avait des choses qui étaient vécues, et il répond à ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. J'arrête la lecture ici, mais en fait, Paul va poursuivre avec une image pour parler de l'Église comme d'un corps, pour parler de l'unité de l'Église où chacun de ses membres, chacun des croyants, va être une partie indispensable de l'Église. Quand on parle de don de l'esprit, peut-être que la première chose dont il faut se rappeler, c'est qu'il s'agit d'un don. un don, par définition, ça ne peut pas être quelque chose qu'on acquiert. Si on pouvait acquérir les dons de l'esprit d'une façon ou d'une autre, ce ne serait plus un don, ce serait un salaire. Si il venait comme pour marquer la victoire d'une course, par exemple, ce ne serait plus un don, ce serait une récompense. Et il y a 2-3 semaines, on a entendu ceci lors d'une prédication. Si on porte l'accent sur l'acquis et non plus sur le don, sur les dons de Dieu, cela change tout. Car évidemment, ce qui est un don au départ se transforme un peu insidieusement en une acquisition. Et donc, en une possession. La prédication portait sur Caïn et Abel. Et quand Ève nomme Caïn, elle l'appelle acquisition, elle l'a acquis avec Dieu. Donc le don se transforme en acquisition et donc en une possession. Et une telle attitude de la part d'Ève, elle l'a probablement transmise à Caïn. Et cela a conduit Caïn à transformer sa vie et ce qu'il est et ce qu'il a en dû, en possession et plus en don. Et quand le don devient acquisition, il devient quelque chose qui m'appartient avec la peur de le perdre. Et si je le perds, je peux commencer à avoir l'impression de ne plus exister. Si on considère les dons de Dieu comme une acquisition, eh bien, on va y mettre notre identité, non plus comme quelque chose de reçu gratuitement, mais comme quelque chose dont on peut se glorifier. Et si on commence à se glorifier de quelque chose, eh bien, quand on le perd ou quand ça ne se passe pas comme on veut, eh bien, tout d'un coup, on n'est plus rien. Quand on parle des dons de l'esprit, souvenons-nous que ce sont des dons donnés gratuitement par Dieu. Il les donne comme il le souhaite, quand il le souhaite. Et quand il les donne, et qu'on voit que l'Église est édifiée par l'action surnaturelle, toute puissante de Dieu, soyons reconnaissants. Ce n'est pas parce que nous avons fait tout juste, ce n'est pas parce que nous avons été bons dans notre façon de vivre la foi, c'est parce que Dieu a fait grâce. Et c'est assez étonnant quand on voit l'histoire de l'Église, c'est que tout d'un coup, il y a des moments où l'Église est comme réveillée, visitée par Dieu. Puis alors on cherche un petit peu qu'est-ce qui a conduit à ce réveil, à cette visitation de la part de Dieu, à cette manifestation particulière de la grâce de Dieu. Et puis on trouve toujours des raisons. Et puis on se dit, mais est-ce que c'est ça qui a produit? Puis on creuse encore un peu, puis on se dit, non mais, il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Il y a une grâce de la part de Dieu. Il y a un don de Dieu. Et le fait que ce soit un don a trois conséquences. La première, je l'ai déjà dit, Dieu donne comme il l'entend. Et s'il donne comme il l'entend, on ne peut pas se révolter, on ne peut pas ne pas être content, on ne peut pas être dans la revendication. Dieu donne au moment où il l'a voulu, comme il l'a voulu, à qui il le veut. Ça veut dire aussi, et ça c'est extrêmement encourageant, c'est que on ne peut pas empêcher les gens de recevoir le don de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, des fois on a l'impression que si l'Église ou le pasteur ou le prédicateur ou les anciens ou telle et telle personne dans l'Église se conduisent de telle et telle façon, les dons ne vont pas être donnés. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de limiter Dieu? Je crois au contraire que quand Dieu a décidé de donner, personne ne va pouvoir l'empêcher de donner. Et ce qui est vrai pour les dons de l'esprit, c'est vrai, mais pour toute la vie chrétienne. Vous savez, des fois, on est focalisé sur une thématique dans la vie chrétienne, pour souvent de très bonnes raisons. Puis on se dit, mais c'est embêtant parce que Dieu, parce qu'il y a des gens qui empêchent cette thématique d'être abordée. Mais si c'est Dieu qui est présent, il va aborder ces thématiques, il va donner ce qui est nécessaire pour la vie de son Église. Et troisième conséquence, donc Dieu donne comme il l'entend, on ne peut pas empêcher Dieu de donner, et on ne peut pas forcer les autres à recevoir. Et ça, c'est embêtant quand même, hein. C'est frustrant. Il y a quelque chose de très frustrant. Mais en fait, dans, dans tout ce qui vient de Dieu. On aimerait pouvoir dire à l'autre, mais tu n'as pas encore compris. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne vis pas comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme ça? Mais on ne peut pas forcer les gens à recevoir Dieu. On ne peut pas forcer les gens à recevoir les dons de Dieu. Autrement dit, quand Dieu se manifeste de façon spectaculaire dans un lieu, dans un endroit, on ne peut être que reconnaissant. C'est génial ça, on peut être que reconnaissant. Et lorsqu'il ne le fait pas, nous ne sommes pas appelés à juger les autres. Ah, vous savez, si dans cette église il se passe ceci, c'est à cause d'un tel qui a commis tel péché. Non, ça ne se fait pas, ça personne ne le dit. Et puis, à l'inverse, des fois, on peut être persuadé que ces manifestations particulières, miraculeuses, appartiennent au passé. Et quand il y a une manifestation particulière dans une église, particulièrement si c'est celle d'à côté, on va commencer à chercher tout plein de raisons pour expliquer ce qui est arrivé. Une chose assez en vogue, c'est quand même les explications psychologiques. Ah, mais si tu as ressenti la grâce de Dieu de telle façon et que ça t'a guéri de tel problème, c'est parce qu'il s'est passé ceci dans ton cerveau. Et des fois, je me dis, mais pourquoi ne pas simplement envisager, quand quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, qu'il vit quelque chose de particulier avec Dieu, pourquoi ne pas simplement l'envisager comme une grâce de Dieu, comme un don que Dieu lui a fait? Et dans mon parcours, j'ai eu le privilège d'être dans des milieux qui sont, on va dire, très charismatiques, très axés sur les dons de l'esprit. Et j'ai eu aussi dans mon parcours l'occasion d'être, on va dire, dans des milieux qui disent que les dons de l'esprit ne sont plus donnés aujourd'hui. On appelle ça le dispensationalisme. Et pourtant, quand j'ai discuté avec les uns, avec les autres, dans les deux milieux, personne ne nie la possibilité des miracles. Ça semble assez logique en fait, parce que quand on croit en Dieu, on croit qu'il agit encore aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on peut lire la Bible, se confier en Christ et dire « mais c'est que du passé ». Parce que si c'est que du passé, comment est-ce qu'il pourrait nous pardonner aujourd'hui de nos péchés? Et donc, en fait, si on voulait aller un peu plus loin dans ce qui va diviser les évangéliques sur la question des dons de l'esprit, il faudrait commencer par définir ce qu'est le don de l'esprit et comment est-ce que ça se vit aujourd'hui. Et je vous ai dit que j'allais rester très consensuel, donc je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Voilà. Mais j'aimerais aborder les choses qui sont autour. Parce que je crois que, en fait, l'attitude avec laquelle on va aborder cette thématique va être absolument essentielle. Et que, en fait, si on aborde cette thématique d'une mauvaise façon, on peut très vite arriver à des clashs. En tout cas, dans le panorama évangélique aujourd'hui, je crois qu'on arriverait très, très vite à des conflits. Et la question qui est là autour et qui est en fait en plein dans le texte biblique, est-ce qu'en abordant cette question, nous sommes remplis d'amour et est-ce qu'on cherche à édifier l'Église? Alors on va revenir dans quelques instants à cette question-là, mais j'aimerais encore parler de deux choses. Donc nous l'avons dit, c'est un don, donc on n'a aucun droit dessus, ce n'est ni un salaire, ni une récompense, et encore moins quelque chose que nous pouvons acquérir. Il s'agit d'un don de l'esprit. Alors, si c'est un don de l'esprit, on déduire qu'il est spirituel et qu'il est donc à chercher auprès de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à rechercher les dons de l'esprit. Par exemple, au chapitre 14, le verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Donc il y a cette aspiration que l'on peut avoir, qui est bonne à avoir, d'aspirer aux dons de l'esprit. Mais si c'est quelque chose qui est spirituel, où est-ce qu'il faut rechercher ce don ? On pourrait avoir envie d'aller courir dans les séminaires, d'aller entendre tel et tel enseignement, d'aller dans tel et tel endroit où les dons de l'esprit sont donnés. Et ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignements qui sont donnés et on cherche à exposer l'entier de ce que la Bible enseigne. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un don spirituel et ne croyons pas que c'est un homme qui va pouvoir donner ce don. Ce sont des dons qui viennent de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de partager avec d'anciens pasteurs qui ont été saisis par Dieu à des moments où mais c'est tombé du ciel. Mais vraiment, littéralement, d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils ont mis du temps vraiment à comprendre ce qui est arrivé, qu'ils avaient été touchés par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit avait été à l'œuvre. Recherchons ces dons auprès de Dieu. Et d'ailleurs, Paul, quand il commence l'épître aux Corinthiens, il met le doigt sur un des problèmes qu'il y avait dans l'église à Corinthe. Et il y en a un qui disait que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Puis il dit, mais Christ est-il divisé? Mais non, nous appartenons tous à Christ. Et évidemment, dans la question des dons de l'esprit, on est très vite tenté de dire, mais tu sais, j'ai reçu tel enseignement d'un tel. Non, cherchons à recevoir de la part de Dieu ce qui est spirituel. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous, et il est question de chacun. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de chouchou devant Dieu. Il nous aime tous de la même façon. Nous sommes tous d'égale importance. Mais malheureusement, nous sommes très vite tentés de faire des distinctions entre les croyants. Alors, de la façon la plus extrême, on va dire que ceux chez qui il n'y a pas de manifestation spectaculaire de dons de l'esprit ne sont pas chrétiens. C'est quand même assez rare, hein. J'ai pas entendu beaucoup de chrétiens s'exprimer dans des termes comme ceci. Mais j'ai entendu des choses comme, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il y a ceux qui parlent en langue, il y a ceux qui ne parlent pas en langue. Et puis en fait, dans ces distinctions-là, qui sont assez intéressantes, c'est qu'il y a un petit fondement quelque part. Parce que la Bible parle de choses charnelles, de choses spirituelles, mais en fait, on va les appliquer de la mauvaise façon. La manifestation des dons ne sert pas à dire nous sommes des bons chrétiens. Quand on est chrétien, Dieu nous donne son esprit et il nous qualifie d'une façon particulière. Pourquoi ? Mais parce qu'on l'a dit avant, chacun est membre du corps de Christ. Donc on va recevoir quelque chose qui nous est propre, qui nous est particulier. Et un don de l'esprit ne vient pas mettre un stempel sur le front de quelqu'un pour dire, un stempel c'est un timbre, sur un sceau pour dire, mais c'est bon, tu es un bon chrétien, c'est bon maintenant, regardez tous, lui il croit, il a reçu le Saint-Esprit, c'est bon. Paul le dit au début de son passage, celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Quand on lit l'épître aux Corinthiens, on a l'impression qu'il y avait des manifestations de l'esprit spectaculaires, avec des miracles, des prophéties, des gens qui parlent en langue. Et on peut facilement imaginer que certaines personnes qui parlaient en langue cherchaient à avoir l'ascendance sur les autres. Comme pour dire, vous savez, moi j'ai reçu quelque chose de particulier, vous ne l'avez pas, venez m'écouter, je vais vous transmettre un message de la part de Dieu. Et je pense aujourd'hui encore, le parler en langue intrigue beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et en fait, de façon générale, ce qui est secret et qui nécessite une initiation a tendance à intriguer les gens. Et c'est assez intéressant parce que si quelqu'un se place dans la position d'une connaissance cachée, ben ça lui donne une ascendance sur l'autre parce qu'il va falloir passer par lui pour être connecté à Dieu. Et puis, ça donne aussi un pouvoir de contestation assez phénoménal à cette personne. Parce que grâce à sa connaissance cachée, elle va pouvoir analyser ce qui se passe dans l'Église et pouvoir dire, mais tu sais, si cette chose ne va pas, c'est parce qu'il y a telle chose qui n'est pas bien enseignée. Non, vous n'avez jamais vu ça. Oui ? Ça va ? Ça vous parle ? Ok. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on peut avoir exactement la même attitude avec la connaissance, par l'intellectuel. On peut produire exactement les mêmes effets. On peut, à force de l'étude, dire, mais vous savez, moi je suis celui qui sait, parce que j'ai bien étudié les textes bibliques, j'ai bien étudié la tradition, je connais les différents courants de pensée, Donc, je suis capable de vous enseigner ce que Dieu dit réellement. Et puis, de la même façon, on peut analyser ce qui se passe et vous dire, mais vous savez, si ça se passe mal, c'est pour ça, c'est pour ceci. Si on faisait les choses de cette façon, ce serait beaucoup mieux. Et quel est le problème, en fait, avec cette attitude? Mais le problème, il n'est pas de chercher à vivre de façon plus intègre pour Dieu. Ça, c'est notre envie, c'est notre souci. C'est pour ça que nous avons cette thématique, mais réveille-toi. C'est parce qu'on a envie d'être intègre avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de passer en revue comment on vit de façon personnelle dans notre vie d'église pour être encore plus proche de Dieu. Mais là, il y a quelque chose d'insidieux qui se joue. C'est qu'en fait, on est en train de se placer à la place du Christ. Pourquoi? Parce que si Jésus, il est venu, c'est pour qu'il y ait un lien direct entre le Père et les croyants. Entre le Père et chacun de ceux qui croient. Pas juste un ou deux élus. Mais que tout le monde puisse avoir un accès direct au Père. Et puis, quand Paul, moi je suis frappé, quand Paul il rencontre pour la dernière fois les anciens d'Éphèse en acte 20, les versets 20, le verset 20, il dit ceci. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons. Extraordinaire. Paul a enseigné tout ce qui était utile. Il ne s'est pas réservé une sorte de connaissance qui pourrait lui donner une ascendance sur l'autre. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Dieu a voulu révéler à tout homme ce qui est utile et nécessaire à notre salut. Et il le révèle dans la Bible. Alors comment avancer? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et ensuite, Paul fait une liste et il va au-delà de la prophétie et du parler en langue, qui était certainement, quand on lit la suite du texte, en tout cas, deux questions centrales pour les Corinthiens, avec pas mal de débats là autour. Et il va faire une liste de dons. Et je ne suis pas sûr que cette liste soit exhaustive, mais j'ai l'impression, parce qu'à d'autres endroits dans la Bible, il y a d'autres dons qui sont mentionnés, c'est que Paul est en train de dire, mais écoutez, ne croyez pas que le don que vous avez reçu, c'est le don que doivent recevoir tous les chrétiens. Ouvrez les yeux. Il y a d'autres dons que Dieu donne. Et il ne les donne pas de façon ponctuelle à deux, trois élus. Il les donne à chacun. Quand on devient chrétien, on reçoit un don, ou même parfois plusieurs, de la part de Dieu, qu'on est appelé à exercer de façon spirituelle. Et regardons autour de nous, il y a des dons qui sont spectaculaires, on ne rate pas qu'ils sont spirituels. Puis il y a des dons qui sont spectaculaires, puis on a l'impression qu'ils sont tout à fait humains. Puis il y a des dons qui sont tout à fait naturels, puis on se dit, mais waouh, cette personne, elle a vraiment reçu quelque chose de Dieu. Et je pense que c'est ça qu'on est appelé à rechercher. C'est à pouvoir exercer les dons que Dieu nous a donnés d'une façon spirituelle, d'une façon à honorer Dieu. Dieu donne des dons et il dit que c'est pour le bien de tous. Et il y a là, je crois, une clé pour l'Église. Quand je parle des dons de l'Esprit, qu'est-ce que je recherche? À avoir raison? Ou est-ce que je cherche à édifier l'Église? Est-ce que je cherche à me prouver quelque chose? À moi? Aux autres? Ou peut-être, j'ai participé une fois à un séminaire et puis on m'a dit, mais écoute, maintenant que tu as entendu ça, que tu as reçu ça, il faut que tu aies amené ça dans ton église. Et puis on se sent comme porté par quelque chose, une mission qu'on nous aurait confiée pour aller transformer le lieu où on se trouve. Ou bien est-ce qu'on se dit, mais je dois rechercher à édifier l'église, là où Dieu m'a placé, avec les dons que Dieu m'a donnés, et avec cette conviction que si Dieu m'appelle à faire quelque chose, il va aussi me qualifier pour ce service. Et ça, c'est extraordinaire. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va te qualifier pour ce service. J'avais un vieux monsieur dans l'église où j'étais avant qui disait « Dieu est un bon payeur. Quand il commande, il paye. » Et avec cette idée de dire « Mais n'ayons pas peur quand Dieu nous demande de faire quelque chose. » Parce que s'il nous demande de faire quelque chose, il va pourvoir pour qu'on mène à bien notre mission.
Alléluia.
Donc, quel que soit notre avis sur cette question-là, on a cette mission de chercher à édifier l'Église. Si ça vient de Dieu, les dons vont unir l'Église, vont l'édifier, vont la construire. Ça ne va pas la diviser. Alors, comment savoir si on a la bonne attitude ? Ah, parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, sur ces questions-là, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu de vérité. Je crois qu'il y a un enjeu de vérité sur des questions profondes comme ça. Et puis, on ne va pas construire l'unité sans la vérité. On ne va pas avancer dans l'Église si la vérité n'est pas proclamée. Et Paul parle des dons de l'Esprit en 1 Corinthiens 12. Et il en parle aussi en 1 Corinthiens 14. Et puis, entre les deux, il y a 1 Corinthiens 13. Alors, je ne crois pas que c'est un hasard. Je crois que si Paul a mis 1 Corinthiens 13 entre 1 Corinthiens 12, où il parle des dons de l'Esprit, et 1 Corinthiens 14, où il parle aussi des dons de l'Esprit, c'est parce qu'il y a quelque chose d'absolument central. Quand j'aborde la question des dons de l'Esprit, de leur actualité ou non, de leur présence ou non dans l'Église, est-ce que je vis ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 13 ? Est-ce que je recherche cela ? Alors, je vais lire ce texte, et puis je vous invite à voir les dons de l'Esprit en arrière-plan, et puis, est-ce que c'est ce qu'on vit quand on parle des dons de l'Esprit ? Je vais lire 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
Amen.
Les dons de l'Esprit, ce n'est pas un combat. C'est une grâce qui édifie dans l'amour. Pour terminer, j'aimerais vous proposer de rêver un petit peu. Imaginez que Jésus vienne là, physiquement, comme il l'était il y a 2000 ans, et qu'il vienne parler des dons de l'Esprit. Comment est-ce qu'il le ferait ? Et comment est-ce que cela peut nous inspirer dans notre façon de rechercher l'Esprit ? les dons de l'Esprit. Je vais prier. Seigneur, garde-nous d'avoir les yeux fixés sur ce qui est passager et qui ne durera pas. Nous voulons avoir les yeux fixés sur ce qui est éternel. Et Seigneur, nous savons que ce qui nous donne accès à ce qui est éternel, c'est le Christ. Merci pour cette porte que tu as ouverte sur la croix, cet accès direct au ciel. Seigneur, merci parce que nous savons que sur notre parcours, tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout du voyage. Seigneur, nous te prions d'édifier l'Église. Tu sais mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Tu sais mieux que quiconque les dons qui ont déjà été donnés et qui sont encore en sourdine, qui ne sont pas encore pleinement manifestés. Tu sais mieux que quiconque les dons qui vont être donnés pour que l'Église soit édifiée. Seigneur, en toute chose, garde-nous de l'orgueil, mais aide-nous à recevoir avec grâce les dons que tu veux nous donner. Aide-nous à laisser chacun utiliser les dons qu'il reçoit pour édifier l'Église. Et permets-nous de le faire avec cette portée éternelle qui est l'amour. Que ce soit vraiment ce qui guide nos paroles et nos actes. Seigneur, donne-nous avec une encore plus grande largesse la foi, l'espérance et l'amour. Amen.